Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Barbara Tillman. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent au moins son nom et en partie aussi ses contributions. Alors, très brièvement, Barbara Tillman a une formation en psychologie cognitive qu'elle a reçue à Mayence, puis à Dijon. Elle a ensuite effectué sa thèse à Dijon dans le laboratoire que dirige Emmanuel Bigan, puis ensuite un stage postdoctoral aux États-Unis sous la direction de Barusha. À partir de 2001, elle est nommée chercheure au CNRS et commence à diriger un petit groupe à partir de 2007. Elle est aujourd'hui responsable d'un laboratoire qui s'intitule « Cognition auditive et psychoacoustique » qui se situe à l'Université Lyon 1. Alors, ces contributions, vous pourrez les retrouver dans la centaine d'articles qu'elle a publiés. Elle s'intéresse tout particulièrement à la perception de la musique chez les non-musiciens, d'où ce titre « Perception musicale, sommes-nous tous des experts ?» Elle est également très intéressée à l'utilisation de la musique pour stimuler les fonctions cognitives. Et il y avait, peut-être encore en cours, j'ai vu à la Maison de la Radio, tout un cycle sur la musique où Barbara Tillman présentait un certain nombre de données. Et puis, dernier intérêt, c'est, qui est majeur, qui a fait en quelque sorte un peu écho à ce que nous venons de voir pour la dyslexie, c'est le domaine de la musique. Vous avez la parole et merci beaucoup.
Merci beaucoup pour cette introduction et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente d'être ici et vous présenter un peu ce domaine de recherche. Donc je pose la question, est-ce que nous sommes tous experts? Et je vais vous présenter des recherches sur la perception musicale sous deux angles et en répondant notamment oui et non à cette question-là. Donc, dans une première partie, je vais vous présenter des recherches sur la perception de l'auditeur non-musicien et puis le cas de la musique congénitale, qui fait aussi un peu écho à ce que vous venez d'entendre. Alors, pourquoi les neurosciences pourraient s'intéresser à la musique ou qu'est-ce qu'on peut apprendre sur le fonctionnement cognitif ou neural si on s'intéresse à la perception de la musique? Dans la musique, il y a des structures, donc on apprend des choses sur le traitement des structures de syntaxe et ça permet de faire un lien avec le traitement du langage. On apprend des choses sur l'apprentissage et la mémoire des régularités qui sont dans notre environnement et aussi la force et la puissance de la cognition implicite. Et vous allez voir pour les deux parties à quoi je vais référer. Traitement des structures musicales, et donc je disais qu'il y a des structures en musique et il y avait des descriptions pour les structures en musique qui peuvent être représentées dans des arbres structurels comme ici et qui font écho à des arbres structurels qui ont été proposés en langage. Et ici, c'est un musicologue et un linguiste qui sont mis ensemble pour proposer cette représentation en organisation structurelle avec des arbres hiérarchiques pour la musique, en s'inspirant évidemment forcément des théories linguistiques. Donc, on peut utiliser ces arbres et ces organisations hiérarchiques pour décrire dans des travaux de musicologie ou dans des théories de la musique. Le compositeur peut peut-être l'utiliser pour la création, l'interprète pour faire son interprétation. Mais est-ce que ces organisations structurelles sont perçues par l'auditeur? Et encore plus, est-ce qu'ils peuvent être perçus par un auditeur non musicien? Et donc, les études suggèrent que oui. Et la question, c'est comment on peut étudier ça? Donc, pour étudier les traitements des structures musicales, on s'est fortement inspiré par ce qui a été fait pour étudier le traitement des structures linguistiques, en analysant notamment les attentes de l'auditeur et en comparant le traitement des erreurs de syntaxe par rapport à ce qui aurait dû apparaître. Donc, on crée des contextes qui finissent sur un événement structurellement correct attendu et on compare avec l'incorrect. Et en musique, c'est particulièrement intéressant parce que la théorie musicale et les musicologues ont spéculé sur le lien de traitement des structures musicales, de ce jeu de violation et de respect des attentes avec l'expressivité et l'émotion musicale. Donc ça montre aussi, étudier la musique, c'est un peu un carrefour entre perception, cognition et émotion. Et donc, expérimentalement, on peut demander directement à l'auditeur est-ce que ce que vous entendez, ça correspond à vos attentes. Et, beaucoup plus intéressant, on peut demander indirectement des tâches aux participants où ils font d'autres choses et on va mesurer combien vite ils le font. Et ça donne une indication indirecte sur ce qu'ils perçoivent, avec l'hypothèse que plus c'est attendu, plus le traitement est facilité. Donc c'est un peu une métaphore de chronométrie mentale. Plus c'est simple, plus ça va aller vite. Et donc vous pouvez faire le raisonnement à l'inverse pour savoir qu'est-ce qui a été traité ou combien difficile c'était être traité avec un événement inattendu devait être traité plus lentement qu'un événement attendu. Donc un paradigme, c'est ce qu'on appelle un paradigme d'amorçage. Vous utilisez un contexte amorce qui est suivi par un événement cible, et on manipule la relation entre l'amorce et la cible, donc en linguistique ou en psycholinguistique, ce serait la relation sémantique ou syntaxique, et nous, maintenant, on est intéressés sur manipuler les relations musicales. Donc vous avez un contexte musical A et 1 et 2, avec un accord final, et on s'intéresse, avec cette méthode d'investigation indirecte, on ne va pas demander combien bien sonne la séquence, mais on va demander une tâche expérimentale qui nous permet de mesurer la vitesse de traitement de ce dernier accord. Et on crée une autre tâche. On crée des accords qui sont soit normal, consonant, ou dissonant. Comme en linguistique, on pourrait avoir un vrai mot et un non-mot, et vous devez dire le plus vite possible, c'est un vrai mot de la langue française ou un mot inventé. Et en musique, on peut en faire consonant-dissonant, ou jouer par un timbre ou un instrument et un autre instrument. Et chaque fois, on va mesurer le temps de réponse avec l'hypothèse, s'il y a traitement des structures, et il y a donc une différenciation entre correct et incorrect, ou attendu, ou supposé attendu et inattendu, il devait avoir une différence de temps de réponse. Ce qui, du coup, nous donne des indications pour les connaissances musicales qui sont derrière et influencent le traitement. Voici un exemple d'un matériel expérimental qui a pu être utilisé. Vous avez des séquences de 8 accords. On s'intéresse au traitement de la cible, donc le dernier accord, qui est le même dans les deux cas. Mais une fois, il correspond tout à fait à ce qui est attendu et des structures correctes de la musique occidentale tonale. Et une fois, c'est moins attendu, appelé moins relié ici. Pas de juger subjectivement comment ça sonne, mais de répondre le plus vite possible que ce dernier accord était consonant en lui-même. Et on observe des temps de réponse plus rapides pour les accords musicalement reliés que non reliés, et pas seulement pour les musiciens, mais également pour les non-musiciens. Donc c'est toujours la différence entre la colonne vert et la colonne rouge, donc un traitement plus rapide pour l'accord de tonique, pour l'accord relié. Et on voit donc que c'est un des résultats qui montre que les auditeurs, même non musiciens, ont des connaissances musicales qui peuvent rester à un niveau implicite, donc ils ne sont pas forcément capables de verbaliser, mais qui influencent la perception et le traitement, donc via le développement des attentes. Et utiliser un paradigme indirect, où on ne demande pas explicitement, a des avantages pour étudier évidemment les non musiciens, je vais vous donner un exemple, mais aussi des enfants ou des différents types de catégories de patients ou des cas particuliers comme les amusiques, comme on va voir dans la deuxième partie. On peut utiliser ce matériel aussi pour étudier les corrélats neuronaux, des traitements des structures musicales. Et juste un résultat phare qui a été observé avec ce type de matériel et d'autres séquences d'accords qui manipulent les structures musicales, on observe une implication des régions frontales inférieures à gauche et à droite. À gauche, c'est la région de Broca dont on vient d'entendre, qui du coup est plus fortement activée lorsqu'il s'agit de traiter une erreur de syntaxe musicale par rapport à une structure qui est conforme et attendue. Et ce type de résultats obtenus ici en imagerie cérébrale par résonance magnétique, donc IRMF, est congruent avec des résultats en méthode de mesure sur le scalp, EEG ou la MEG, et qui ont amené à tout un champ de recherche qui maintenant s'intéresse au recouvrement des ressources neuronales qui traitent les structures musicales et les structures linguistiques, qui rentrent dans un grand débat, qu'est-ce qui est spécifique au langage, qu'est-ce qui est spécifique aux musiques, ou est-ce qu'il y a des ressources neuronales partagées, comme Aniruddh Patel a proposé comme hypothèse qu'il y a des ressources neuronales partagées pour traiter des structures syntaxiques indépendamment du matériel dans lequel ils sont impliqués. Ce qui, du coup, s'oppose un peu avec d'autres résultats sur des patients qui ont plutôt clamé qu'il y a des ressources neuronales spécifiques pour la musique et pour le langage. Et maintenant, évidemment, le challenge, c'est de mettre tout ensemble pour comprendre qu'est-ce qui est vraiment spécifique et qu'est-ce qui est partagé. Je vous ai présenté les séquences d'accords, mais on peut raffiner ce paradigme pour montrer encore plus combien subtiles sont les connaissances qu'un auditeur non musicien peut avoir sur les structures musicales. Donc on peut passer aux mélodies, parce que du coup, au lieu d'avoir plusieurs notes en même temps, vous n'avez qu'une seule note, et on peut créer des situations expérimentales où il n'y a qu'une note, ici répétée, qui se distingue entre les deux mélodies. Donc c'est exactement la même information acoustique, sauf d'une note au début de la mélodie, et on s'intéresse si ça change la perception de la dernière note. Musicalement, elles sont interprétées différemment. À nouveau, une note qu'on appelle fortement reliée, ou pour ceux qui ont une connaissance musicale, c'est une tonique, la note la plus importante de la tonalité, qui est normalement utilisée pour finir une mélodie, et une note moins importante, mais quand même pas incongrue. C'est encore un exemple que je veux bien vous faire écouter pour que vous entendiez la subtilité de ce qu'on peut étudier. De cette dernière note qu'on peut voir chez les non-musiciens qui sont plus rapides dans le premier cas que dans le deuxième, même si c'est presque identique en information acoustique, sauf le début de la mélodie. Et on peut raffiner encore en utilisant d'autres oppositions tonales plus sensibles, plus subtiles. Donc, pour ceux qui connaissent, il y a la médiante versus la sensible. Pour les autres, croyez-moi que c'est une différence encore plus fine. Si on teste ça, on trouve des temps de réponse plus rapides pour la médiante, donc pour celle qui est plus attendue. Il n'y a pas d'effet d'expertise musicale, donc on trouve le temps de réponse, différence de temps de réponse pour les musiciens et pour les non-musiciens. Et si on faisait la même tâche avec un jugement d'explicite, combien bien finit la mélodie, les musiciens font la différence, mais les non-musiciens ne font pas la différence. Donc, si on serait resté à un jugement explicite, on pourrait déduire, non, le non-musicien n'est pas capable de faire une différenciation aussi fine, mais le musicien le peut. Par contre, si vous allez plus loin et vous utilisez une méthode d'investigation indirecte, ou un peu étudier le traitement implicite, vous pouvez voir que même les non-musiciens font ce traitement-là. Utiliser les notes nous permet aussi de faire un lien avec un traitement de plus bas niveau, et donc ça fait écho au premier séminaire de ce cycle de perception de la musique. On peut utiliser ces petites mélodies-là pour étudier le traitement de la hauteur. Donc cette fois-ci, la tâche des participants, c'est une tâche de discrimination des hauteurs. Et donc, vous voyez, c'est la même mélodie que tout à l'heure, sauf qu'on double la dernière note. Et cette dernière note, elle est soit exactement la même, soit la deuxième, elle est légèrement désaccordée. Et la tâche du participant, c'est de simplement dire, est-ce que les deux notes sont identiques ou est-ce qu'elles sont différentes? Donc, vous pouvez faire la tâche en ignorant complètement le contexte. Si, par contre, les attentes, ils vous ont aidé à déterminer la hauteur du son, donc, ils vont influencer aussi les performances dans le premier cas et dans le deuxième. Et ce qu'on a observé, il y a une meilleure discrimination de la hauteur, un meilleur traitement de la fréquence fondamentale lorsque les notes ont une fonction musicalement correcte, donc sont supposées d'être attendues, par rapport aux notes moins attendues. Et on peut voir ça aussi dans des réponses électrophysiologiques très précoces, dans les 100 premières millisecondes après le début de la note. Donc, je vous ai donné quelques exemples de recherche autour de la cognition musicale qui s'intéressent donc à l'auditeur non-musicien. Ici aussi, c'était des auditeurs non-musiciens dans ces études-là, où vous avez pu voir des résultats qui montrent que des structures musicales très fines, donc pas une grosse fausse note qui apparaît soudainement, peut être détectée et traitée et anticipée par un auditeur non-musicien. Donc c'est ça la première partie où je vous dis, oui, l'auditeur non-musicien peut traiter des structures musicales. Je disais tout le temps auditeur non-musicien, juste pour clarifier, ici je parle des auditeurs qui n'ont pas de formation musicale explicite, donc pas de cours ni théorique, ni un cours d'apprentissage sur un instrument. Et je vous en ai quelques exemples, mais il y en a d'autres dans ce champ de recherche pour montrer que les non-musiciens peuvent traiter des structures et des fonctions musicales. Donc, ils ont des connaissances musicales implicites. Des fois, on fait le parallèle entre un musicien face à la musique, comme un enfant face à sa langue maternelle. Il comprend les structures, il peut détecter des erreurs, sans pour autant être capable de verbaliser et expliquer, ou avoir un raisonnement explicite sur les structures ou les erreurs qu'il entend. Et ça cache, et pour le langage et pour la musique, une capacité cognitive qu'on appelle apprentissage implicite. Donc le cerveau, juste par simple exposition à des régularités dans notre environnement, s'ils sont implémentés dans des sons musicaux ou dans des sons verbaux, le cerveau extrait les régularités qui existent entre les événements, crée comme une base de données de ces structures qui après il utilise pour prédire les événements les plus probables, créer des attentes et après distinguer, comme vous avez pu voir, avec un événement correct, attendu, inattendu. Et c'est ça qui fait qu'on peut parler du non-musicien comme un expert implicite de la perception musicale. Donc il est expert, certes, mais à un niveau implicite, pas forcément verbalisable. Et à l'auditeur non-musicien, que je vous vends une petite première partie pour montrer qu'il est capable de traiter des structures musicales, que le cerveau applique sa capacité d'apprentissage implicite pas seulement au langage ou aux régularités visuelles, mais aussi à des sons non-verbaux musicaux pour créer des connaissances et après pour permettre de traiter les structures musicales qu'on pourrait décrire par la théorie musicale. Je vais vous parler maintenant de la deuxième partie où je vais donner la réponse non en parlant des amusiques. J'aurais pu parler que de cette partie-là, parce qu'il y a une partie qui fait écho à votre cours sur les bases génétiques qu'on pourrait chercher ou essayer de trouver. Mais je trouvais important d'avoir la première partie pour vous montrer en combien ce phénomène-là se contraste avec l'auditeur non-musicien, qui peut être incertain de ses compétences musicales parce que... il n'a pas appris explicitement la musique, mais qui a des fortes connaissances sur les structures musicales qu'on peut montrer dans le laboratoire avec des méthodologies raffinées, soit en comportement, soit en neuroimagerie ou neurophysiologiquement. Donc si je dis amusie, on peut dire que c'est des perturbations ou la perte totale des habiletés musicales, donc ça peut être en perception ou en production. Et on peut distinguer deux versions. Il y a ceux avec lésion cérébrale et ceux sans lésion cérébrale. Je vais surtout parler de la deuxième partie, donc sans lésion cérébrale. Juste un premier mot sur les amusies suite à des lésions cérébrales. Donc ça peut être des accidents vasculaires cérébrales ou des lésions à cause d'une résection, l'épilepsie, une tumeur ou autre. Et donc ces études se focalisent sur les symptômes, donc les rapports subjectif des patients, donc ça peut être des études de cas de patients, ou des études de groupe où on met ensemble un certain type de patients avec des lésions à des endroits similaires. Et on s'intéresse donc à ce lien entre lésions et déficit. Les cas peuvent être multiples, ils ne sont souvent pas purs, mais s'il y a des cas qui sont purs, c'est particulièrement intéressant. Notamment quand vous trouvez ce qu'on appelle une double dissociation. Donc vous pouvez trouver un patient qui a une amusie, donc une difficulté avec le traitement de la musique, mais pas d'aphasie, ou un cas qui a une aphasie, donc difficulté du langage, mais pas d'amusie. Ou même plus petit, à l'intérieur de la musique, des difficultés sur la perception de la hauteur, mais pas sur le rythme, ou sur le timbre, mais pas sur l'émotion, etc. Donc c'est des cas particulièrement intéressants pour essayer de comprendre quels sont les corollaires neuronaux sous-jacents à l'intérieur de la musique, du traitement de la musique, des différentes composantes, mais aussi à nouveau, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui est spécifique au langage, qu'est-ce qui est spécifique à la musique. Donc il y a ces études de patients, des vrais patients, donc avec des lésions, mais je vous propose de focaliser plutôt sur les cas des personnes qui sont amusiques mais qui n'ont pas de lésions cérébrales. Donc on estime à peu près 2 à 4% de la population qui sont atteints de ce phénomène-là, et c'est là où on retrouve la notion de amusie congénitale. Alors ce phénomène est connu depuis longtemps. Il y avait un cas décrit par Grant Allen en 1878, qui décrivait un homme de 30 ans qui avait fait des études, qui n'avait pas de lésions neurologiques, mais qui était incapable de discriminer deux notes proches en hauteur, de reconnaître un air familier ou de chanter. Donc un phénomène connu depuis longtemps, mais c'est seulement depuis les années 2000 qu'il y a des études systématiques en psychologie cognitive et en neurosciences cognitives, et notamment grâce à une batterie de diagnostics d'amusie qui a été mise en place par Isabelle Peretz à l'Université de Montréal, qui a été l'invité du professeur Petit il y a quelques années. Et donc depuis cette mise en place de cet outil-là et les premières recherches phares qu'elle a conduites, un domaine de recherche s'est créé pour mieux comprendre ce phénomène. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez ces personnes-là? Qu'est-ce qui est vraiment au-delà du rapport subjectif? Qu'est-ce qui est déficitaire? Quels pourraient être les corollaires neuronaux, même s'il n'y a pas de lésion? Et aussi, comment on pourrait aller vers réhabilitation? Et notamment, comme vous allez voir tout à l'heure, il y a un intérêt d'étudier ce phénomène-là, non seulement pour comprendre le phénomène et éventuellement proposer des programmes d'entraînement, mais ça donne aussi une fenêtre spécifique pour l'étude du fonctionnement normal, parce que c'est complémentaire avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, avec le non-musicien, pour la musique, mais aussi musique versus langage, voire d'autres habiletés. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un déficit musical qui ne peut pas être expliqué. Ah oui, je voulais vous dire un autre. Ici, à musique congénitale, on estime que c'est 2 à 4% de la population. Et, on ne sait pas exactement combien c'est, parce qu'il y a évidemment des fois une crainte d'avouer dans le public qu'on n'aime pas la musique, ou ça ne dit rien, ou on ne comprend rien. Par contre, c'est important de dire qu'ici, je ne parle pas des personnes qui ont un manque de confiance dans leur capacité musicale. Par exemple, en Angleterre, il y avait une étude qui avait fait un recensement avec des étudiants à l'université, John Sloboda et Lola Caddy, et puis l'estimation des étudiants d'eux-mêmes, c'était 15 à 17% de leur population aurait été tone deaf ou en musique. Mais une fois analysé, on se rend compte que c'est beaucoup, beaucoup moins que ceux qui ont le sentiment. Donc un manque de confiance dans ses capacités, dans la grande partie, probablement implicite. Et on le distingue aussi d'une catégorie de personnes qu'on appelle maintenant des mauvais chanteurs. Donc, c'est des personnes qui ont des difficultés de produire la musique, donc de chanter, mais qui entendent parfaitement qu'il y a un problème, que c'est faux et que ce n'est pas juste. Donc là, on estime 10 à 15% de la population, et ça aussi, c'est un champ de recherche qui commence à grandir. Mais moi, je veux parler donc de la musique congénitale, où c'est un déficit pour perception et production. Et donc, une définition qui a été proposée, que c'est un déficit qui ne peut pas être expliqué par des lésions cérébrales, des pertes auditives, des déficits cognitifs et sociaux ou un manque d'exposition à la musique. Et dans les premières études, tout était bien contrôlé afin d'exclure tous ces phénomènes-là. Les premières études ont aussi dit que la compréhension de la parole est normale, en tout cas, il n'y a pas de plainte des amusiques, il y a une reconnaissance normale des voix et des sons de l'environnement. Ici, il y a deux célèbres figures, donc Che Guevara et Milton Friedman. Donc, l'un a fait des études de médecine, l'autre est prix Nobel d'économie. Donc, ce n'est pas un exemple pour dire que ce n'est pas un déficit cognitif qui pourrait expliquer la musique congénitale. Ce qui les caractérise, c'est l'incapacité de reconnaître une chanson familière sans les paroles et une incapacité de détecter une fausse note ou quand quelqu'un chante faux, y inclut eux-mêmes. Et donc un collègue m'a rapporté récemment une anecdote sur un ami à lui qui disait qu'il reconnaît la Marseillaise parce que tout le monde se lève. Un autre exemple, c'est aussi tirer des témoignages des personnes à musique qui viennent faire les tests dans notre laboratoire, c'est les concerts de fin d'année pour les élèves. Une grosse erreur d'élève, tout le monde est un peu amusé, sauf que la musique, il n'a pas entendu pourquoi il y aura quelque chose de drôle à ce moment-là dans la performance de cet enfant. Une autre situation compliquée socialement, c'est la musique qui nous a rapporté qu'elle ne fait pas la différence entre les sonneries, appels internes et externes, et la victime de moquerie de ses collègues. Un exemple, donc c'est Simone Dalla-Balla qui est maintenant à Montpellier, qui m'a donner un exemple sonore. Donc, je parlais de la perception, je vous donne quand même un exemple de la production d'une personne à musique, si ça fonctionne. Oups. Non. Alors, c'est les gens de pays, donc c'est le joyeux anniversaire québécois. Je vais vous faire écouter un bout en original, si vous ne connaissez pas.
Mon cher Michel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Michel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour.
Et maintenant, la production d'une personne à musique.
Mon cher Michel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Michel, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour.
Donc ici, en chant, vous avez entendu, la personne fait des erreurs de contour mélodique, donc même mélanger si ça doit monter ou descendre. Et ça, c'est des erreurs que même une personne non musicien qui chante peut-être pas très juste ne ferait pas. Ce serait plutôt des erreurs d'imprécision et de justesse. Tandis qu'ici, si vous connaissez pas l'original, c'est difficile de le retrouver. Donc la production qui est affectée, la perception qui est affectée et qui peut avoir des effets même dans la vie de tous les jours, même non musical comme les sonneries de téléphone. Et puis il y a les rapports que les gens font, rapports subjectifs que les personnes rapportent sur eux-mêmes. On observe que certaines musiques rapportent qu'ils intègrent moins la musique dans leur vie de tous les jours, et ils ont aussi des sentiments plus négatifs quand il y a la musique imposée dans des lieux publics ou à certains endroits. Alors, il n'y a pas d'analyse dans le sens qu'est-ce qui est préféré ou pas. Par contre, il y a des études qui ont analysé la perception en comparaison avec la production et dans des contextes hors mélodie, parce que là, c'est vraiment rechanter toute la mélodie, des petits bouts, où on a pu montrer que même si en perception, les performances sont extrêmement déficitaires, la production peut marcher mieux dans certains cas, pas pour tous les musiques, même si la perception est déficitaire. Donc, comme on peut avoir une vision aussi, il y a un blind side, donc on ne voit pas vraiment l'objet, mais on peut avoir une action qui est appropriée aux objets. Donc, il y avait ce parallèle-là qui a été proposé, mais ça ne s'applique pas à tous les musiques. Et donc, avec cette réponse-là, ça anticipe un peu la réponse, un commentaire que je vais faire à plusieurs moments. C'est y inclut pour le rapport subjectif des personnes. Au début, on parlait d'amusie congénitale, et dans certaines études que je vais vous présenter, c'est aussi ça qui prime. Donc, il y a un déficit de traiter la hauteur, moins de déficit pour traiter le temps. Mais on se rend compte que, un peu comme pour la dyslexie, on dit, bon, il y a la dyslexie, et puis avec les recherches, on se rend compte qu'il y a différentes facettes, différentes constellations, différents types. Et là aussi, maintenant, ce serait plutôt les amusies congénitales. Les amusies congénitales, qui différencient avec les caractéristiques de déficit sur la hauteur, sur le temps, comment ils utilisent la musique. Est-ce qu'ils apprécient encore la musique? Certains disent oui, j'écoute. D'autres disent ouais, je tolère. D'autres évitent complètement. Même des super cartes concerts prestigieux les donnent parce qu'en disant je ne vais pas passer la soirée à écouter du bruit. Et donc les personnes qui se différencient entre perception et production, qui arrivent encore à faire une production, au moins la direction est juste, même si l'intervalle n'est pas correct, ou ceux qui n'y arrivent pas, même si la perception elle est déficitaire. Voilà, mais pas pour tous les amusiques, ce que je viens de dire. Donc, je rappelle, c'est un déficit donc, de perception et production, et c'est un dysfonctionnement où on pense que c'est d'origine neurogénétique. C'est là où ça fait écho au cours que vous avez eu juste avant, parce qu'on fait la comparaison avec la dyslexie développementale pour le langage ou la prosopagnosie congénitale, donc c'est la difficulté de reconnaître des visages, évidemment, à nouveau, sans lésion cérébrale. Et les estimations sont aussi similaires, autour de 4-5% pour ces différentes pathologies. Et donc, ça nous donne, ce dysfonctionnement nous donne des informations dans les bases comportementales, neurales et génétiques des fonctions cognitives. Ici, c'est la cognition musicale, tout ensemble avec l'influence de l'environnement. Et pour la musique congénitale, pour arriver à cette terminologie qui a été introduite par Isabelle Peretz en construisant la batterie et le domaine, on peut trouver quelques études qui sont intéressées aux bases génétiques, déjà de la perception musicale, de la perception de la hauteur plus généralement. Donc il y avait une étude qui a étudié des vrais et faux jumeaux avec des tests de détection de fausses notes dans des mélodies. Il y a une forte corrélation entre les performances qui a donné l'estimation de 71 à 80% d'héritabilité de la capacité de traiter la hauteur dans un contexte mélodique. Donc là, on ne parle pas encore d'amusie, mais c'est Isabelle Peretz elle-même qui a proposé donc une étude des familles à musique et les familles contrôle, donc qui sont comparables sur tout un ensemble de caractéristiques, mais qui ne sont pas à musique, pour les tester avec les tests et les batteries habituelles de perception et production musicale, et notamment de perception. Et ils ont observé que 39% des proches de premier degré dans les familles à musique sont aussi à musique, en comparaison à 3% des familles contrôle. Ce qui est une incidence comparable à d'autres pathologies ou déficits des fonctions, d'autres fonctions cognitives, comme par exemple la dysphasie. Et donc, chercher des bases génétiques de cette amusie s'intègre aussi avec d'autres tentatives maintenant, soit avec des approches des études sur les jumeaux, des familles ou d'autres approches de méthodologie génétique pour trouver les gènes de l'aptitude ou capacité musicale. Et il y a des revues récentes, si ça vous intéresse, pour regarder un peu plus et sur la perception et sur la production, quelles sont les pistes qui ont été proposées et qui sont un peu en l'air, qui doivent être reconfirmé parce que la taille n'est pas très grande, mais on est sur la trace d'essayer de voir quels pourraient être les gènes d'aptitude musicale en allant vers l'extrême, évidemment, vers les experts, et ceux avec des capacités musicales particulières, ou de l'autre côté, avec les personnes à musique. Mais je n'ai pas actuellement une liste aussi précise à vous proposer pour déterminer exactement. Il y a quelques pistes qu'on pourra détailler, mais j'ai favorisé de vous expliquer un peu plus le phénomène. Et qu'est-ce qu'on sait déjà sur les corrélats perceptifs et cognitifs de cette condition d'amusie congénitale. Donc pour illustrer encore plus ce phénomène subjectivement, avant d'aller vers l'expérimentation, donc qui essaie de décrire le déficit plus spécifiquement, pour essayer de mieux comprendre ce qui reste ou ce qui ne fonctionne plus, ici, quelques réponses typiques à des questionnaires qui différencient bien les amusiques des contrôles. Par exemple, à la question « Parvenez-vous à reconnaître une mélodie connue sans l'aide des paroles ?», il y a 74% des amusiques qui répondent rarement, et contre 8% des contrôles. « Pourriez-vous remarquer qu'une personne chante faux ?» Les réponses « Non », la différence est extrême, vous voyez. « Chantez-vous faux ?» La différence est moins grande. C'est là, à nouveau, on peut tomber sur le manque de confiance, qu'est-ce qui est vraiment chanté bien, ou les parties des personnes qui tombent dans mauvais chanteurs, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Par contre, si on précise un peu la question, on dit « parvenez-vous à reproduire des notes qui sont jouées au piano en chantant ?», à nouveau, on trouve une plus grande différence entre les amusiques, 80% qui disent non, et 4% des contrôles qui disent non. « Chantez-vous en privé ?», à nouveau une question qui est très distinctive entre les deux populations. Subjectif, au rapport subjectif des amusiques. Je vous ai parlé tout à l'heure que le domaine a évolué grâce à la proposition d'une batterie de diagnostics autour de la perception. Du coup, les différents groupes de recherche peuvent travailler avec la même définition et on va au-delà d'un simple rapport subjectif de la personne. Donc, cette batterie d'évaluation d'amusie proposée donc par Isabelle Peretz et ses collaborateurs propose 6 tests pour évaluer perception et mémoire musicale. La plupart des tests ont une construction suivante. Vous entendez une mélodie, il y a une pause, une deuxième mélodie, et la tâche des participants, c'est tout simplement de dire est-ce que c'est les mêmes, est-ce que les deux mélodies sont identiques ou est-ce qu'ils sont différents. Et je vais vous donner un exemple d'un item où c'est difficile pour les amusiques de dire que les deux mélodies sont différentes. là, ici, vous avez eu un exemple qui, pour la plupart d'entre vous, je pense que c'était flagrant. Il y avait une note changée qui était hors tonalité. Donc, dans ces items-là, vous avez les deux mélodies. Il y a une note qui est changée. Elle est hors tonalité. Elle change le contour ou elle change l'intervalle. Elle change le rythme ou deux autres types de sous-tests. Et elle évalue donc le traitement de la dimension de la hauteur, comme l'exemple que vous venez d'entendre, qui fait partie de la sous-partie de la batterie qui est le plus diagnostique, parce que c'est le plus facile pour les non-amusiques et reste difficile pour les personnes amusiques, l'exemple que vous avez entendu. Et la dimension de la hauteur, le traitement de la dimension de la hauteur, c'est la dimension qui est principalement affectée. La dimension temporelle, elle est intacte à peu près pour la moitié des amusiques. On peut trouver des déficits plus forts quand il y a un impact de la hauteur et de son déficit sur le traitement du rythme. Mais il y a maintenant aussi des cas d'arythmie pure, donc il n'y a pas de difficulté sur la dimension de la hauteur, mais une difficulté sur le traitement du rythme ou de la métrique. Ce qui, du coup, vous donne une petite fenêtre d'ouverture, à nouveau, sur... Bon, on ne peut pas parler vraiment de la musique congénitale, mais c'est probablement les amusies congénitales avec des différentes caractéristiques. Mais malgré tout, donc, indépendamment des cas spécifiques que je vous ai mis en ouverture, la dimension de la hauteur est la dimension principalement infectée. Donc, il y a ce déficitement de traitement de hauteur. Donc, est-ce que c'est une difficulté de traiter, de discriminer les notes? Ou est-ce que c'est une difficulté de mémoriser les notes? Et là, je vais vous détailler un peu comment on peut étudier la réponse aux deux questions et où ça va nous mener par la suite. Il y a un déficit de perception de hauteur dans un contexte non musical. Donc ici, c'est une tâche très simple. Vous avez 5 notes, ils sont tous la même hauteur, ou le quatrième change, et le plus aigu ou le plus grave. Et la tâche des participants, c'est de dire est-ce qu'il y avait un changement ou pas? Et le changement est de différentes tailles, 3 demi-tons, 2 demi-tons, 1 demi-ton, 1 demi-demi-ton ou 1 quart de demi-ton. Et vous voyez ici les résultats. Pour les participants contrôle, 100% de bonnes réponses. Il n'y a pas de problème indépendant de la taille de différence. Par contre, les amusiques ont besoin de 2 demi-tons de différence pour atteindre le niveau de performance des contrôles. Contrairement à un quart de demi-ton, ou même pour les contrôles, c'est encore facile de détecter. Vous voyez ici, les performances des amusiques sont considérablement chutées. Et donc, si vous liez ça au fait qu'un demi-ton, c'est la différence minimale et qui peut être significatif dans le système de la musique occidentale tonale, on peut comprendre pourquoi ça a en cascade un effet de ne pas comprendre les structures musicales. Donc, il y a un déficit de perception de la hauteur sur la discrimination, même dans un contexte non musical comme ici. Et du coup, la question, est-ce que, bon, il y a aussi un déficit de mémoire des notes? Parce que souvent, des amusiques disent, bon, j'essaie de garder ce que je viens d'entendre, mais c'est parti. Donc, pour tester s'il y a une difficulté de mémoriser des notes, ça fait un écho à la batterie. Donc, vous avez une séquence de notes. Pause. Et la tâche, c'est est-ce que c'est pareil ou est-ce que c'est différent? Donc là, vous voyez les amusiques en carré rouge, donc c'est la moyenne de leur performance pour les amusiques et pour les participants contrôle, sont clairement déficitaires par rapport au contrôle. Et le meilleur des amusiques, il est bien plus moins bon que le pire des contrôles. Merci. Du coup, avec ces résultats-là, on peut se dire, bon, est-ce que c'est vraiment une difficulté de mémoire ou est-ce que c'est une conséquence à la difficulté de la perception de la hauteur? Si je ne peux pas entendre la différence, ben, je vais échouer forcément dans une tâche de mémoire. Donc on peut construire un matériel expérimental qui prend en compte les différences de hauteur en fonction de ce que les gens sont capables d'entendre. On utilise des méthodologies qui sont plus tirées de la psychoacoustique pour déterminer pour chaque participant individuellement quelle est la différence de hauteur qu'ils sont capables de discriminer. Donc, c'est des tests où vous entendez un paire de notes qui sont différents, suivi un paire de notes qui sont identiques, et les participants doivent dire est-ce que c'était le premier ou le deuxième qui est différent. Et on diminue, jusqu'au moment où les participants n'arrivent plus. Et on peut utiliser cette information-là donc pour déterminer ce qu'on appelle un seuil de discrimination de hauteur pour les amusiques et les contrôles. Et à nouveau, vous voyez, les performances moyennes des amusiques sont moins bonnes que pour les contrôles. Ici, moins bon veut dire plus de différences nécessaires pour faire la différence. Mais ce que vous voyez aussi, c'est qu'il y a une grande distribution des amusiques et des contrôles. Donc vous pouvez avoir des amusiques qui sont aussi bons que les contrôles ou des contrôles qui sont aussi mauvais que les amusiques. Donc oui, il y a un déficit de discrimination d'auteur dans ce cas de figure, mais pas pour tous les amusiques. Mais vous pouvez utiliser cette information-là pour créer des mélodies où maintenant les différences entre les notes sont au-delà de ce qu'ils peuvent entendre et on fait le même type d'expérimentation, mélodie, pause, mélodie. Et à nouveau, vous observez que les amusiques sont moins bons que les contrôles. Si on met avec les données individuelles, vous voyez à nouveau que le meilleur des amusiques est en dessous des contrôles. Il n'y a pas de recouvrement entre les performances des deux groupes. Par contre, c'est ce que je vous propose maintenant à droite, c'est le même participant pour où on teste le déficit de discrimination de l'auteur, où il y a un recouvrement entre les deux groupes. Donc, même si on a pris la précaution de ne pas être atteint sur le déficit de la discrimination de l'auteur, il y a un déficit de discrimination, un déficit de mémoire des séquences de mélodie. Et à nouveau, l'hypothèse, est-ce qu'il y a des différents sous-types d'amusiques congénitaux ou est-ce que ce qui est central, c'est le déficit de mémoire, mais certaines personnes sont tellement fortement atteintes du déficit de mémoire, même si je fais une tâche type psychoacoustique où je compare deux paires de sons qui sont présentés rapidement dans le temps, il faut quand même garder en mémoire, avoir une trace mnésique de ce que je viens d'entendre. Si votre trace mnésique est tellement affectée que même sans délai de 1, 2, 3 secondes au milieu, la trace n'est pas suffisamment forte et donc vous échouez aussi sur le test de discrimination d'auteur. Donc cette question-là aux hypothèses est ouverte, est-ce que c'est des sous-types de amusique ou est-ce qu'il s'agit du même phénomène qui est plus ou moins amplifié? Donc un déficit de discrimination d'auteur, oui, mais pas pour tous les amusiques, ce que je viens de dire. Un déficit de mémoire d'auteur, oui. Et là, on peut accentuer encore un peu plus, je vais passer un peu plus rapidement. Il y a une difficulté de garder l'information de l'auteur à travers le temps. On peut l'étudier en rallongeant, donc au lieu de 2 secondes, vous mettez 3 secondes entre les deux mélodies. Pour les contrôles, ça ne change rien. Une personne en musique chute déjà avec l'allongement du délai entre les deux. Cette faiblesse ou de la trace en mémoire peut être vue pour l'effet du délai, mais on peut le voir aussi avec des effets d'interférence. Les amusiques sont plus sensibles à du matériel qui pourrait être présenté au milieu, où on doit garder en mémoire. Et la troisième question que je vais poser autour de la mémoire, c'est ce qui découle avec les phénomènes que j'ai rapportés avant. Est-ce que ce déficit de mémoire est spécifique à la hauteur des notes, ou est-ce que c'est plus général à toute information auditive? Pour répondre à cette question-là, on peut créer un paradigme expérimental qui s'est construit exactement de la même façon, mais vous mettez des notes, des mots ou des timbres en séquence. Donc vous avez des mélodies comme je vous ai fait écouter tout à l'heure, une pause de 3 secondes ici, la mélodie elle change. Des timbres musicaux qui sont tous joués sur la même hauteur, pause, les séquences à nouveau, ou des mots français monosyllabiques prononcés sur la même hauteur, pour que ça ne soit pas une caractéristique. Et on teste ici les amusiques et les participants contrôle, où on peut à nouveau avoir plus généralement la question, est-ce que c'est spécifique au verbal ou non-verbal? Est-ce qu'il y a une différenciation musique-langage? Sur la base des premières études qui ont été faites, notre hypothèse, c'était qu'il n'y a pas de déficit pour les mots qui étaient attendus, parce que des implants de mémoire ou d'autres tests neuropsychologiques ont été normaux. Je vous rappelle que je vous avais dit pas de déficit cognitif ou attentionnel des amusiques. Et maintenant, si le déficit de mémoire est restreint à la hauteur, la performance des timbres devrait être OK. Également, si par contre la position c'est plutôt verbale, non-verbale, on a un déficit également, un déficit pour les timbres et les notes par rapport aux mots. Voici, vous avez les résultats. Donc il y a une mémoire à court terme qui est clairement déficitaire pour les notes, donc c'est le résultat que je vous ai présenté auparavant. Reste déficitaire pour les timbres, mais non pour les mots. Donc il y a un déficit de mémoire à court terme pour un matériel non verbal, mais pas pour un matériel verbal. Pour les mots, on peut... Un résultat qui a aussi des implications sur le fonctionnement de la mémoire en général, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Donc, pour les mots, pendant le délai, qu'est-ce que font les gens normalement? On se répète intérieurement les mots. Il existe un phénomène similaire pour les notes, chanter intérieurement les notes. Et pour les timbres, c'est moins probable, donc on tape probablement d'un mécanisme de mémoire sensorielle, parce que la reproduction est improbable ou trop difficile. Et vous voyez ici le patron que les deux premiers sont déficitaires pour les amusiques, mais le dernier processus pour le matériel verbal est intact pour les amusiques. Donc, voici mon petit résumé. Donc, le déficit de mémoire à court terme pour le matériel non verbal, mais pas pour le matériel verbal. Est-ce qu'on peut trouver des corrélats neuronaux de ce phénomène-là? Au début, je vous ai dit que c'est un déficit qui ne peut pas être expliqué par des lésions cérébrales, mais des recherches plus récentes ont montré que non, il n'y a pas de lésions cérébrales, mais il y a des anomalies cérébrales. Et on peut mettre ça ensemble avec des résultats qui se sont intéressés au fonctionnement normal de perception et mémoire musicale, comme aussi des résultats de Robert Sator, qui datent déjà depuis un moment, où on montre, un des premiers résultats qui montre que l'hémisphère droit avec le cortex frontal inférieur et les régions temporales travaillant ensemble dans l'hémisphère droit, un peu l'équivalent de ce qu'on a entendu sur l'hémisphère gauche tout à l'heure, pour la perception et la mémoire musicale. Et c'est là où on a trouvé des anomalies neuronales, donc une anomalie neuronale du réseau temporal frontal, frontotemporal droit chez les amusiques, avec moins de matière blanche en cortex frontal inférieur droit, avec plus d'épaisseur corticale dans ces régions frontales inférieures et dans le cortex temporal supérieur droit, et une réduction des fibres du faisceau arché droit qui donc lie ces deux régions-là, comme vous avez entendu dans votre cours tout à l'heure, sur l'hémisphère gauche. Et on peut faire les liens entre les données anatomiques et fonctionnelles, mais on peut aussi regarder directement les données fonctionnelles pour voir est-ce qu'on trouve aussi ces anomalies du réseau frontotemporal droit. Ici, c'est juste une étude d'écoute passive, je passe un peu plus vite, où on voit chez les amusiques une désactivation anormale du cortex frontal et une connectivité donc fonctionnelle réduite entre le cortex frontal et auditif. Et ce que je n'ai pas marqué ici, une surconnectivité entre les deux cortex auditifs, comme s'ils travaillent anormalement plus ensemble que dans le cas normal. Et on peut étudier ça aussi avec la méthodologie magnéto-encéphalographie. On met l'activité des neurones sur le scalp, vous avez entendu tout à l'heure, avec le paradigme de mémoire que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est intéressant parce qu'on peut regarder les mécanismes d'encodage, rétention et la reconnaissance au moment où vous faites votre jugement, c'était la même mélodie ou différent. Quand on regarde au niveau d'encodage, vous pouvez observer, normalement, vous avez 6 notes, et chaque note vous donne un marqueur cérébral pour les notes qui est traitées. Donc, c'est une onde autour de 100 millisecondes, qui pique autour de 100 millisecondes, qui est particulièrement forte pour la première note, mais qui existe pour toutes les notes. Et si on analyse ces résultats-là, vous voyez pour les amusiques, il y a une diminution de l'amplitude de cette réponse et un retardement. Observé au scalp, donc des 100 millisecondes pour l'encodage de ces 6 notes des mélodies. Et cette méthodologie-là vous permet aussi, avec des méthodologies d'analyse de traitement du signal, de trouver d'où dans le cerveau venait ce signal-là. Et si on fait cette technique de localisation de source, on retrouve que ces anomalies fonctionnelles observées sur le scalp ont été émis par une anomalie du cortex auditif et du cortex frontal inférieur. Donc moins de recrutement et une réponse retardée par rapport au contrôle. Et avec les méthodologies d'analyse, on peut aller plus loin avec des modèles qui analysent la dynamique causale entre les régions. On peut voir que cette anomalie de connectivité frontotemporale droite, on la retrouve avec ces informations-là de signal au niveau des sources, donc une moins bonne connectivité entre le cortex frontal inférieur droit et le cortex auditif droit chez les amésiques, ainsi que une surconnectivité entre les deux cortex auditifs qui est anormale également. Je passe un peu plus rapidement. Donc vous voyez cette anomalie fonctionnelle cortex auditif et cortex frontal inférieur au niveau d'encodage. On peut le trouver au niveau de la rétention, pendant le délai, en analysant les oscillations cérébrales. Et on peut également le trouver, cette anomalie frontotemporale, au niveau de la reconnaissance, au niveau du scalp et aussi avec la dynamique entre les régions cérébrales. Donc on a une anomalie anatomique et fonctionnelle dans le cortex frontal et temporal droite, avec une anomalie des connectivités frontotemporales qu'on peut aussi observer quand on analyse le cerveau au repos chez les amésiques. Et d'ailleurs, il y a un autre résultat récent, chez le cerveau des dyslexiques au repos, on trouve aussi des anomalies de connectivité avec le cerveau au repos. Donc, pas de lésion cérébrale, mais un dysfonctionnement d'un réseau frontotemporal droit qui a été, je vous ai dit tout à l'heure, impliqué dans la perception et la mémoire musicale chez les personnes non amusiques, normales. Mais avec des résultats supplémentaires qui, du coup, nous permettent aussi de mieux comprendre le fonctionnement normal avec des résultats de la mémoire auditive qui n'ont pas été rapportés auparavant. Donc, anomalie anatomique et fonctionnelle. Il y a un traitement donc, déficitaire de la hauteur. Je vous ai dit tout à l'heure que ce phénomène-là, c'est intéressant. Donc, ce phénomène d'amusique congénitale est intéressant aussi pour avoir plus d'informations sur traiter le langage, traiter la musique. On sait qu'il y a aussi la hauteur comme signal relevant dans la parole. Donc, est-ce qu'il y a un traitement aussi déficitaire chez ces amusiques pour le traiter la parole? Le premier résultat, c'était non. Il n'y a pas de problème pour dire l'intention, distinguer une question d'une affirmation, pas de problème. Et une première hypothèse, c'était de dire que les différences d'auteur en parole sont plus grandes en parole, pardon, les différences d'auteur sont plus grandes en parole qu'en musique, et c'est pour ça que le déficit s'exprime particulièrement en musique, comme ici vous avez les tracés pour Happy Birthday, où vous avez donc le fameux sémiton dont je parlais, demi-ton dont je parlais tout à l'heure, contrairement à question-affirmation, où ça peut aller jusqu'à 12 demi-tons de différence pour avoir la différenciation. Comme ce type de phénomène et résultat a des implications pour les questions autour de la spécificité ou des ressources partagées entre traitement musico-langage, le domaine n'est pas resté là, mais a amené la question du traitement de la hauteur pour la parole à nouveau dans le laboratoire avec des contrôles encore plus fins. Où du coup, on a vu qu'il y a quand même des déficits de distinguer question-affirmation en anglais et français pour les amusiques anglophones et francophones, pour la prosodie émotionnelle en anglais, mais aussi pour des locuteurs de langue tonale, pour distinguer des mots de leur langue maternelle. Donc en chinois ou mandarin, vous savez certainement, un ma ou un ma ne veut pas du tout dire la même chose. Donc il y a déjà, c'est intéressant parce qu'il existe des amusiques des locuteurs de langue tonale, et parmi eux, il y a des amusiques. Et parmi eux, il y a un sous-ensemble qui peut aussi avoir des difficultés dans les conditions de laboratoire, de distinguer des mots de leur langue native qu'avec des indications de hauteur.
Est-ce que vous savez s'il y a la même proportion que dans la
ici, c'est pour le moment juste cette étude-là qui a vraiment étudié ça, et ça tombe à peu près sur le même pourcentage. Après, on a utilisé ce matériel aussi de langue à ton, mais avec des amusiques francophones, parce que ça nous a permis de créer un matériel avec un analogue musical. Donc, vous avez la différenciation, est-ce que c'est
pas.
Le son n'est pas très bon. Et l'analogue musical, donc pas l'information verbale. Et c'est là qu'on observe que les amusiques, ils sont déficitaires et pour le langage et pour le matériel musical, mais ils ont plus fortement déficitaires, les amusiques qui sont le plus fortement déficitaires, donc ils ont des seuils au-dessus d'un demi-ton, donc je vous ai montré tout à l'heure avec le test de discrimination de hauteur, ils réussissent mieux pour le langage que pour la musique. Donc même si le déficit de traitement de la hauteur affecte aussi le traitement du matériel linguistique, il affecte moins fortement pour ceux qui sont le plus amusés. Je vais sauter, attendez. Pour des questions de temps, je vais passer pour vous donner quand même quelques indications sur le traitement implicite dont vous avez parlé tout à l'heure et qui fait écho à la première partie. Parce qu'il y a maintenant des résultats qui ont montré qu'au niveau implicite, les amusiques peuvent quand même être capables de distinguer certaines caractéristiques de la hauteur des mélodies. Et c'est intéressant donc, par rapport à d'autres domaines, perception du langage, des visages, donc il y a des patients aphasiques, prosopagnosiques ou dyslexiques qui peuvent faire implicitement un traitement, même si explicitement ils sont déficitaires. Il existe maintenant des données EEG et comportementales qui montrent ça chez les amusiques et ça donne des perspectives de stratégies de réhabilitation. Par exemple, est-ce qu'ils peuvent détecter des fausses notes? Est-ce qu'ils pourraient traiter des structures tonales implicitement? Est-ce qu'implicitement, ils pourraient quand même avoir des mélodies stockées en mémoire à long terme et avoir un sentiment de familiarité? Il y a Isabelle Peretz qui avait fait une étude EEG sur la détection des fausses notes. Même idée, vous avez des mélodies tout normales, une fausse note à l'intérieur ou mal accordée. Et pour les notes mal accordées, en tâche explicite, les amusiques, ils échouent, mais en mesure implicite, donc juste mesurer l'activité électrique au scalp, les deux, amusique et contrôle, montrent une plus grande négativité précoce pour les notes mal accordées que pour les notes justes. Mais les amusiques manquent une positivité tardive qui souvent a été mise en lien avec une détection conscience. Donc la conclusion ici, c'était qu'il y a un traitement des différences fines de hauteur qui est possible, mais sans conscience. Et ça pourrait être l'hypothèse pour dire que malgré tout, les amusiques pourraient acquérir quelques connaissances tonales ou ensemble avec ceux qui n'ont pas un seuil de discrimination très élevé. Donc, est-ce qu'ils peuvent traiter les structures tonales? Ici, je reviens sur la mesure comportementale que je vous ai montrée dans la première partie, le paradigme d'amorçage. On s'intéresse au traitement de la dernière note. Je vous rappelle que ce n'est pas un jugement explicite, mais on s'intéresse à la vitesse de traitement, qui devait être plus rapide dans le premier cas que dans le deuxième. Petit carton pour vous rappeler ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, les participants contrôlent. Et ici, le résultat pour les participants à musique, qui montre aussi la différence fine de ce traitement de structure musicale, même si c'est moins prononcé que chez les contrôles. Mais vous voyez, eux aussi, ils traitent plus rapidement la dernière accord quand il est attendu, donc musicalement, structurellement correct, par rapport au deuxième cas. Donc, une mesure comportementale indirecte. Je vais juste vous rapporter brièvement les résultats vu l'heure qu'on a commencé un peu plus tard, juste pour pouvoir conclure. On peut poser du coup une question, est-ce qu'il y a un bénéfice de ces connaissances tonales pour la mémoire à court terme, en opposant tonale et atonale? Il y a un peu de bénéfice des structures tonales pour la mémoire à court terme, même chez les amusiques. On peut faire des tâches où on s'intéresse, on manipule maintenant le type de questions qu'on pourrait poser aux amusiques, en opposant des tonales à tonales, mais pour des questions, je vous passe les détails, je saute à la conclusion, parce que comme il est une heure, mais c'est vous qui me dites, sinon je le rapporte. Okay. Donc, pour est-ce que les connaissances tonales pourraient bénéficier à la mémoire à court terme? Je me base ici sur des résultats qui ont été observés chez des auditeurs, même non musiciens. Les performances dans les tâches, même différentes que je vous ai montrées tout à l'heure, ils sont meilleurs lorsqu'il s'agit des mélodies qui sont des structures tonales, par rapport à des mélodies qui ont des structures, pas de structure tonale, donc qui sont atonales. Parce que les non-musiciens peuvent exploiter ces connaissances tonales pour mieux mémoriser les mélodies ici par rapport à le cas atonal. Ça n'aide pas aux amusiques d'avoir des meilleures performances de mémoire, mais ils ont aussi des réponses plus rapides comme les contrôles. Mais ce n'est pas suffisant pour pallier à leur déficit de mémoire. Donc là, on peut dire que c'est un peu ambitieux avec ce matériel qui est quand même assez restreint, si vous écoutez cette mélodie-là. Donc c'est pas très très riche par rapport à une mélodie tonale. Donc on s'est dit peut-être on peut trouver encore plus de traitements structurels tonales si on voit avec un matériel plus riche. Et on change aussi les tâches expérimentales qu'on demande aux personnes. Ici, donc, on va comparer des pièces pour piano existantes, donc comme Beethoven par exemple ici. Et on va créer des équivalents atonaux qui sont comme des clones qui réorganisent les notes utilisées pour détruire les structures tonales, mais pour garder la rythmicité, les voix mélodiques, la configuration des voix dans le temps. Et ça sonne à peu près comme ça. Donc vous avez la même information de surface temporelle, mais plus de structure tonale. Et on va demander aux amusiques des différentes questions qui demandent de prendre des perspectives différentes, structurelles, émotionnelles, personnelles, sociales et autres. Donc avec la question 1, c'est à quel point ce morceau est conforme à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Est-ce que vous achèterez des CD de ce genre de musique? Ou si vous pensez aux Français, c'est la hit parade, où vous classeriez cet extrait-là? Donc, en prenant des perspectives différentes, notamment donc, émotionnelles, personnelles ou sociales et autres, par rapport à structurel, qui est vraiment le jugement explicite de juger qu'est-ce qui est correct sur le système musical tonal, on voulait voir en combien ça change ce qu'on observe avec les amusiques. Et ça va aller vite. Les amusiques se comportent comme les contrôles pour la hit parade, comme pour leur désir d'acheter le CD, avec le petit commentaire que personne n'a vraiment envie d'acheter sur une échelle de 1 à 10 ces CD-là. Et même pour la première question, les amusiques distinguent les tonales et les atonales, mais c'est là où ils ont le moins bon. Donc c'est là où, avec la question la plus directe, plus explicite, on retrouve à nouveau leur déficit. Donc c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure, il y a une acquisition de connaissances tonales avec certaines relations tonales qui sont au-dessus du seuil de discrimination de hauteur, et un traitement implicite de la hauteur, comme montré aussi pour la tâche de détection de fausses notes avec les mesures EEG. On peut aller plus loin, on peut dire, est-ce qu'ils peuvent avoir emmagasiné des connaissances musicales à long terme et avoir un sentiment de familiarité, même si, à cette fameuse question, est-ce que vous reconnaissez des mélodies sans paroles, échoue. Donc un sentiment de familiarité peut être étudié en disant que quel est le minimum de musique que l'on doit entendre pour avoir un sentiment de dire que oui, je vais connaître. Pour des non-musiciens, on a vu que 500 millisecondes suffisent pour dire que oui, je pense que ce que je vais entendre, je le connais. La qualité de la sono est malheureusement pas très bonne. Et le premier à nouveau qui devient... Donc, pour les participants en contrôle, 500 millisecondes suffisent pour faire la différenciation des extraits qui longs sont jugés familiers et non familiers, et également pour les amusiques, qui était un résultat extrêmement surprenant pour nous, comme on avait déjà hésité de passer l'expérience aux amusiques, puisqu'on sait qu'ils ont une difficulté pour connaître des mélodies. La seule différence, c'est sur le temps d'accès de donner la réponse. Je vous ai présenté ces résultats au niveau implicite pour les perspectives de stratégie de réhabilitation. Et il y a maintenant le domaine qui commence à proposer des stratégies de réhabilitation. Une écoute simple n'a pas marché, donc l'équipe à Montréal essaie maintenant des cours de guitare. Les ateliers de chant et des essais à Londres sont plutôt prometteurs. Nous, on a essayé d'exploiter une autre piste, c'est exploiter les interactions audiovisuelles, donc voir un signal visuel non informatif aide à mieux percevoir la discrimination de hauteur. Et maintenant, le plan, c'est de voir est-ce qu'on peut l'utiliser aussi pour pallier au déficit de mémoire. Et puis, généralement, les recherches sur la musique congénitale chez l'enfant se développent maintenant avec des premiers cas rapportés aussi par l'équipe à Montréal. Et la proposition d'une batterie, tout simplement dire que bon, si on peut le diagnostiquer plus tôt, la plasticité étant plus grande chez l'enfant, on va peut-être mieux voir qu'est-ce qu'on peut utiliser comme stratégie de réhabilitation. avec des stratégies de réhabilitation qui deviennent d'autant plus promoteurs, puisqu'il y a maintenant les études qui ont montré qu'il y a un traitement implicite qui se fait au niveau de la hauteur et au niveau des structures tonales également. Je pense que... pourquoi les recherches sur la musique congénitale? Je vous ai fait à différents moments l'indication que c'est aussi pour mieux comprendre le fonctionnement du traitement, le fonctionnement cérébral du traitement musical aussi chez le normal et l'articulation avec le langage, les perspectives vers les réhabilitations et aussi, c'est intéressant d'observer aussi que c'est la diffusion de l'information à un large public parce que les personnes, souvent, ils se sentent seules. Ils font des témoignages assez touchants des rapports de leur vie. Tu fais exprès, sors par le prof de musique, va au fond du jardin et faire ta flûte à bec parce que ce que tu fais, c'est insupportable. Ou de se sentir seul comme la comme j'étais bizarre par rapport aux autres parce que ça ne me disait rien. Donc, au-delà de recherches sciences pures, il y a une information, un plus grand public qui est intéressant. Et je conclue... rapidement, pour faire le lien entre les deux parties, vous voyez, il y a l'expertise implicite du non-musicien qui contraste avec le phénomène observé de l'amusie congénitale, mais qui, du coup, montre aussi une capacité implicite qui est prometteur pour une exploitation, une réhabilitation. Et les deux pans de recherche nous informent pour corrélats cognitifs et neuronaux du fonctionnement normal et pathologique, et pas seulement pour la musique, mais aussi l'articulation avec le langage. Qu'est-ce qui est spécifique musique-langage? Qu'est-ce qui est partagé? Et du coup, ouvrant évidemment aussi aux perspectives de réhabilitation par ailleurs, comme référé le professeur Petit tout à l'heure, utiliser la musique pour stimuler le cerveau, donc dans l'autre sens. Je vous remercie pour l'attention et malgré le retard du cours. Et je remercie tous mes collaborateurs. Et si vous voulez entendre plus d'exemples pour cette batterie de tests, vous pouvez vous connecter. Merci.